menacé de fermeture. Je suis venu vous dire ma responsabilité parce que quand on prétend à la présidence de la République, on doit croire à son industrie, à l'industrie sidérurgique, a déclaré François Hollande, qui s'est engagé. On va tout faire pour que ce site ici puisse se développer, se moderniser. Voilà mon message devant vous, a-t-il ajouté devant les salariés. Nicolas Sarkozy, pendant ce temps, rassurait les salariés de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne en Seine-Maritime. C'est signé, leur a-t-il dit, un contrat avec Shell, un contrat de 6 mois qui va permettre une reprise temporaire d'activité. Je suis quelqu'un de parole, a lancé le président de la République. Petroplus indique que les travaux de remise en marche pendant 8 à 10 semaines, retour de l'activité début mai donc. À Marseille, les marins CGT de la SNCM, la Société Nationale Corse Méditerranée, sont en grève. Ils veulent dénoncer les risques de démantèlement de la compagnie. Les ferries sont bloquées à quai. De mauvaises nouvelles d'Innsbruck. Là où est hospitalisé le prince Johann Friso d'Orange Nassau de la famille royale des Pays-Bas, il a été pris il y a une semaine dans une avalanche. Il n'a toujours pas repris connaissance et il se pourrait bien, selon ses médecins, qu'il ne sorte jamais du coma. Le prince a 43 ans. Il est resté 20 minutes enseveli sous la neige. Son cerveau a manqué d'oxygène et cela a provoqué un arrêt cardiaque de 50 minutes. Le Suisse Didier Kuch lui termine en beauté la saison. Il a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de cette saison. En attendant, il remporte le Super G de Crans-Montana devant son public ravi. Et puis, un mot de la Coupe Davis, c'est du tennis. Le quart de finale opposant la France aux États-Unis aura lieu à Monte-Carlo. Ce sera du 6 au 8 avril sur terre battue en extérieur.
Nous autres.
Nous n'est pas pour une révolution. Nous n'est pour évolution.
Zoé Varié.
Poutine ou Hadi. Poutine, va-t'en. Depuis 2 mois, des milliers de Russes descendent dans la rue.
La révolution en Russie, c'est très rare et chaque fois, c'est très tragique. Et c'est pas ce que nous, on veut pour notre pays.
Cette contestation peut-elle devenir un vrai mouvement politique?
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter, la différence.
Et bientôt 15h04 sur France Inter, à suivre là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Vous m'avez traité de semi-démente.
Ça vous laisse une bonne moitié. Alors là Jean-Luc, excellent, excellent.
Hier j'ai fait un rêve. J'étais au Hammam avec Jean-Marie Le Pen dans une superbe djellaba rose fluo et on mangeait un kebab en dévorant le Coran. À côté, il y avait Claude Guéant, qui lisait un vieux traité sur les civilisations surévaluées et sous-évoluées, comme l'UMP. Puis, enivrés par la dette grecque, nous ont rejoints Copé, Lemaire et Barouin, des bouteilles d'ouzo plein les poches. Alors ils ont chanté l'intégrale de Nanamous Koury, Guéant a parlé du seul truc qu'il connaissait de la civilisation grecque, la moussaka, on a dansé le sirtaki, bouffé des raisins de Corinthe privatisés, et 2 heures plus tard, on a tous rejoint Sarko et Villepin à Euro Disney. Et là, vous auriez vu comme ils étaient beaux, ces 7 petits nains dans les bras d'Angela Merkel, déguisés en Blanche-Neige, comme il était fier de son équipe. Le petit Nicolas, c'était onusien. Mais ce n'était qu'un rêve de Pascal de Lyon.
Il est nul, Hollande, il est nul. Hollande, et dire qu'il va falloir voter pour lui si on vote. Ça m'est venu comme ça après avoir entendu le 13h. Ah, il est nul ce con. Voilà qu'il a été ému par la contrition de Sarkozy, petit garçon qui regrette d'être allé au Phuket. Ça l'a touché, ça. Mais moi aussi, ça m'a touché. Mais moi aussi, parce qu'en plus, il a fait ça pour épater Cécilia, et elle n'est pas venue. Mais c'était gentil, ça. Et en fait, il a voulu juste épater Cécilia, quoi. Moi, quand je voulais épater ma femme, je l'ai amenée à la cafette de Géant Casino. Je disais, bon, allez, les plats sont copieux, c'est même pas la peine de prendre une entrée. Ah, voilà, quoi. Et mes fils, ils adoraient aller à la cafette de Géant Casino. Mais ce que je suggère, moi, à Sarko, c'est, s'il est réélu, c'est d'aller au McDo. Ben oui, moi, cette fois, si je suis réélu, j'emmènerai Carla et la petite au McDo, parce que comme ça, elle aura le jouet, la petite. Puis j'aime bien l'hamburger, c'est ce qu'ils mangent mes électeurs. Et la petite, elle pourra faire un peu du toboggan. Ah oui, le McDo, c'est bien. Ça, c'est populaire.
Voilà, j'habite le Pireux-sur-Marne et je voudrais vous lire un poème que vient de m'envoyer ma caisse de retraite, la Malakoff Médéric. Ça vaut le coup. Alors je commence, voilà ce poème. Attention, suite à une instruction de la Direction générale des impôts et pour ce qui concerne la CSG déductible, sauf la fraction de la CSG qui s'applique sur l'allocation de base, hors majoration familiale, doit être déduite du taxable. Si vous ne bénéficiez de majoration familiale, la part de CSG calculée sur celle-ci est donc cumulée dans la colonne CRDS, CSG non déductible. Il en va de même pour les prélèvements opérés au titre du régime local Alsace-Moselle pour les majorations familiales. Fin du poème. Voilà, c'était dans le cadre de la semaine de la poésie.
Je m'appelle Pascal, je suis professeur des écoles et syndicaliste à la CGT. Je me trouve rue des Piats à Tourcoing et nous attendons de pied ferme l'arrivée de M. Nicolas Sarkozy qui nous gratifie d'une visite au CFA et au lycée Le Corbusier. Le CFA est un organe privé qui est accueilli par un lycée professionnel public. Il vient en grande pompe et pour avoir bonne mesure, l'entièreté des personnes venues le conspuer pour cette visite ont été expulsées manu militari du parvis. Nous avons été repoussés à plus de 300 mètres du lycée Le Corbusier. Nous comprenons maintenant pourquoi Sarkozy pouvait prétendre que quand il y avait une manifestation, personne n'en entendait parler. C'est parce que M. Nicolas Sarkozy a peur du peuple et avant son arrivée, il expulse par la force toute opposition. M. Nicolas Sarkozy est une honte pour l'éducation et pour la France.
Je suis Dom de Nantes. Votre émission d'aujourd'hui, le 23, je trouve que concernant Nicolas Sarkozy, bon, je ne suis pas d'accord pour lui, d'accord, entre nous, mais alors votre attitude est vraiment lamentable. Bon, vraiment, mermez alors là votre émission aujourd'hui. Pour la fin, c'est vraiment, vous êtes pourris. Merci.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Pourriez-vous donner quelques précisions sur le café repère de Budapest, s'il vous plaît? J'ai des amis et de la famille à Budapest qui seraient intéressés, qui voudraient s'y rendre pour écouter, pour voir comment ça fonctionne. Donc, je voudrais savoir comment, où et quand ils se réunissent là-bas. Voilà, merci. C'est à Monica.
Merci Monica, et bien c'est facile de retrouver les coordonnées du café repère de là-bas si j'y suis de Budapest. Il suffit d'aller sur le site là-bas.org, là-bas.org, et toutes les coordonnées sont indiquées. Merci à tous, beaucoup de messages suite à cette suite de reportages sur la Hongrie, sur Budapest. Merci à tous. Vous vous souvenez, ces jours derniers, les provocations du député UMP Christian Van Est concernant la légende, dit-il, je cite bien sûr ça, la légende de la déportation des homosexuels français. Alors, ce genre de provocation n'a pas manqué d'attirer l'attention sur ces pages d'histoire et aussi l'attention sur Pierre Selle. Pierre Selle, qui est mort en 2005 au terme d'une lutte courageuse et pathétique pour la reconnaissance de la déportation et de la persécution des homosexuels, était un vieil ami de la base si j'y suis. Son témoignage a fait l'objet d'un livre en 1994 et il a inspiré, il a témoigné dans nombre de films. Son histoire et son témoignage a été évoqué par le Premier ministre Lionel Jospin, puis par Jacques Chirac. Il existe aujourd'hui une rue Pierre Selle à Toulouse, la même où nous l'avions rencontré, et à Mulhouse, sa ville natale, existe une plaque qui évoque la déportation des homosexuels, et c'est l'association Les Oubliés de la Mémoire qui milite pour, eh bien, pour la reconnaissance de cette déportation et la mémoire des homosexuels, et notamment celle de notre Pierre Selle. Mais je tiens à préciser que c'est dans la base si j'y suis, en février 1993, il y aura tantôt 20 ans, que Pierre Selle, avec son témoignage, a été pour la première fois à l'origine de toutes ces Eh bien, cette lutte et cette sortie du placard et de l'ombre et de la nuit de cette mémoire. Donc, je tiens à le préciser. Et aujourd'hui, on va revenir sur les deux émissions qu'on vous avait proposées à l'époque, en février 93, cette rencontre avec Pierre Selle, qui nous avait beaucoup, beaucoup frappé, qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, et qui a eu beaucoup de retentissement. Donc voilà, aujourd'hui, Pierre Selle, homosexuel, déporté. Un retour sur cette émission de février 1993. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Si vous n'avez pas encore jeté votre télé, essayez de l'allumer samedi soir à 20h30 sur France O pour regarder un documentaire assez étonnant qui s'appelle Tahiti Pacific Magazine, une goutte de liberté dans l'océan. Vous y verrez le travail d'un vrai journaliste qui n'a même pas sa carte de presse et qui pourtant depuis 21 ans sort son magazine tous les mois en Polynésie tout seul avec ses petits moyens. C'est le canard enchaîné local. Ça fait 21 ans qu'il emmerde le monde là-bas avec son journal. Et il a tout combattu, que ce soit les militaires contre les essais nucléaires, que ce soit Gaston Flosse. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui fait trembler la Polynésie depuis 20 ans. Voilà, c'est le parcours d'un homme exceptionnel, d'un citoyen journaliste qui fait vraiment le travail qui devrait être fait dans les rédactions nationales françaises. Comme quoi, on n'a pas besoin toujours d'énormes moyens pour faire son travail de journaliste réellement. Voilà, 20h30, France O, samedi 25. Canal 19 de la TNT. Salut Urbain.
Salut à tous. Vendredi, samedi et dimanche à Lyon, il y a le salon Prime Vert. C'est un salon bio pendant 3 jours. Alors habituellement, je le fais pour vendre du pistou, mais comme là, on n'a plus beaucoup de pistou, je monterai au salon sur le stand de Fakir, parce que Fakir sera présent pendant les 3 jours. Vous pourrez y retrouver donc le journal, les gens qui l'animent, et puis François Ruffin qui donnera une conférence. Et puis on pensera aux gens du repère de Tourette ce soir à 19h latitude. Vive, portez-vous bien. Vous pourrez aussi trouver pendant le salon primaire le DVD de Pauline Mougenot, plat de résistance, qui a été fait l'année dernière sur le plateau de Lille. Vive.
Salut Mermet, ben, j'ai bien aimé ton émission d'hier. Voilà, j'aimerais bien que tu retrouves le socle, le fameux socle qui a dû rester en place, parce que je soupçonne fort qu'ils aient remplacé les bottes de Staline par la bite de Stallone. C'était Pierre, dans l'Isère.
Salut Daniel, salut l'équipe, salut les amis. Ben ce soir, il y a le Café Repère de Plomelin qui fait sa première édition. Donc rendez-vous 20h30 à l'ancien bar de Tissouben sur la route de Pont-l'Abbé. Voilà, pour ceux qui connaissent, prendre l'UDU et direction Pont-l'Abbé, 1,5 km, c'est sur la droite. Voilà. Donc premier repère de là-bas si j'y suis, rendez-vous 20h30. Hein, et soyez nombreux. Et puis le thème du premier rendez-vous, c'est un repère pour quoi faire. Donc un repère à Plomelin, comme il n'y en avait pas dans le coin, et ben maintenant il y en a un.
Je vous appelle aujourd'hui parce que hier soir, j'ai vu à Toulouse, au Théâtre de la Violette, un tout petit théâtre assez récent, je pense, un spectacle extraordinaire, c'est Karl Marx, Le Retour, de Howard Zinn, avec Philippe Coste. Donc c'est un texte de Howard Zinn qui imagine que Karl Marx est revenu et qui regarde le monde. Et donc on a trouvé ça vraiment extraordinaire. L'acteur est superbe et après la pièce, on peut discuter. Enfin, il parle un peu de la façon dont il voit les choses. C'est très très intéressant et j'invite tout le monde à aller le voir. C'est dans un tout petit théâtre, donc le Théâtre de la Violette, qui se trouve au nord de Toulouse, 67 chemin Pugibert. Vous pourrez trouver facilement les coordonnées sur Internet. Et donc c'est un théâtre qu'il faut aider, parce que c'est un tout petit théâtre qui passe donc des choses courageuses, mais c'est pas pour ça que je conseille d'y aller, parce que je suis pas actionnaire du théâtre, mais simplement parce que vraiment on a beaucoup apprécié. Donc Karl Marx, Le Retour, d'Howard Zinn avec Philippe Coste, au Théâtre de la Violette à Toulouse. Merci, au revoir.
Salut Daniel Mermet. Alors d'une part, je suis content de téléphoner parce que je suis né le jour de la Saint-Daniel, le 11 décembre. Alors pour la prochaine, ce serait une bonne fête, Daniel. Et puis si je te téléphone, c'est pour juste pour te dire qu'aujourd'hui, François Hollande est en Lorraine, à ArcelorMittal à Florence, parce que les camarades sont en train de se battre. Nous essayons de sauver les emplois et la vallée de la Fensch, parce que sinon, ça sera une ville morte, et puis ça sera la vallée de la mort. Salut Daniel, et puis bonne journée à toi.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
Moi, Pierre Selle, né le 16 août 1923 à Haguenau, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, interné au camp de concentration allemand de Forbruck, déporté, non reconnu à ce jour. Moi, Pierre Selle, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, déporté au camp de concentration allemand de Forbruck pour homosexualité. Demande officielle de la reconnaissance légale et de droit de la déportation historique des homosexuels et homosexuelles par les nazis pendant la dernière guerre. J'ai vécu ce drame dans l'horreur de la souffrance indicible. Le racisme sexuel existe. Je veux au soir de ma vie et jusqu'à mes toutes dernières forces encore persévérer pour notre mémoire et notre réhabilitation. Mon douloureux témoignage personnel de 49 années d'angoisse honteuse. Petit chapeau, petite écharpe, cravate, manteau, retraité, propret, province, courtois. La nuit, il ne dort pas dans son appartement. Tout un bordel tourmenté de papiers empilés, dossiers jetés, journaux découpés ou froissés. Sur la cuisinière, il regarde une bougie. Une bougie allumée. La bougie, c'est Jo, son ami martyr, son amour torturé. Cet homme porte plus d'histoire qu'un homme peut en porter. Il est sans doute le seul rescapé des déportés homosexuels de la dernière guerre. Et depuis des années, à 70 ans, il se bat désespéré pour le droit, le simple droit, le plus simple des droits, la plus élémentaire des dignités.
J'ai tellement étouffé cette chose pendant 40 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Avec un mouchoir, j'ai vécu sur la bouche. Ne rien dire à personne. Il n'y avait que le moment qui est arrivé à mon retour de Russie à savoir ce qui s'est passé. C'est à elle que je l'ai dit. Et après, on me reproche, ma femme me reproche que je lui ai jamais rien dit. Mais je ne pouvais, on ne peut parler qu'avec sa mère de ces choses-là. On ne peut pas parler avec une épouse, avec une femme. Je peux pas, moi je pouvais pas. Je me serais diminué moi-même. Or, dans la vie, je n'ai toujours eu qu'un sentiment de me grandir, que ce soit dans le travail, que ce soit l'exemple que je donnais à mes enfants. Je n'ai touché à un jeune. Mon amour homosexuel, c'est un amour réservé à une image. C'est un amour réservé à quelqu'un qui peut partager avec moi, hein. Et je suis donc sorti de ce silence progressivement, c'est-à-dire d'abord maman, ensuite le silence, le mariage, 28 ans de vie commune, des enfants. Et alors, progressivement, je me suis dit, mais il faut que tu parles, tu peux pas garder ça.
Pierre Peter Selle, histoire d'un triangle rose. Rouge, les politiques. Vert, les passagers illégaux ou les délits de frontières. Jaune, juifs, polonais ou russes. Écossais, droits communs ou asociaux. Bleu, les homosexuels ou les religieux. Voilà les sigles, les signes qui marquaient ceux dont les nazis avaient décidé la disparition. De tout cela, ceux qui portèrent d'abord le sigle bleu, puis le triangle rose, on en parle peu, on en parle pas souvent, très peu souvent. Oubliés de l'histoire ou méprisés à les savoir. Aujourd'hui, le témoignage de Pierre Selle. Pierre Selle a 70 ans, il vient de vous le dire, et il veut absolument témoigner. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qu'on est allé chercher comme ça dans un coin et qu'on a supplié de bien vouloir parler dans le micro. C'est quelqu'un qui veut absolument témoigner et raconter son histoire. Ça se passe à Toulouse, un beau jour tranquille de Toulouse. Si on voit cet homme dans la rue, personne ne peut se douter de qui il est, ni imaginer un seul instant qu'il est le dépositaire d'une histoire aussi poignante.
Bonjour, monsieur.
Donnez-vous la peine de rentrer, je suis heureux de vous accueillir.
Bonjour, monsieur Daniel Mermet.
J'étais à la fenêtre pour vous guetter et puis j'allais à votre rencontre et puis je vous ai manqué.
Voilà, bon, on arrive. On arrive, on avance par là.
Oui, oui. Écoutez, je ne vous invite pas à ranger. Hein, vous prenez comme c'est. C'est mon cadre de vie. Donnez-vous la peine, excusez-moi, je suis désolé. Je vais chercher une autre chaise. Ça, c'est mon bunker, parce qu'en même temps que je fais la cuisine, c'est ici que je me concentre.
Ah, mais pourquoi vous avez toutes ces galettes de roi?
Oh, ça, c'est des garnitures. Je vis avec un garçon qui m'aide surtout à vivre, oui, qui m'aide à payer le loyer. Et puis alors, il m'a ramené des galettes, les unes après les
autres. C'est drôle. Et
puis, j'ai toujours été le roi, et puis voilà.
Ah
ça, c'est... Non, mais ça, c'est des trucs, vous savez, quand on essaie, on survit. Ça aussi, vous voyez.
Pourquoi cette bougie, oui, sur la cuisinière?
Cette bougie, depuis des années, j'ai une bougie ici, elle brûle pour les morts que j'ai connus en mai 41. C'est idiot, c'est terrible.
Ah, sans souvenir des...
C'est pas un souvenir, c'est une présence. Dès que quelqu'un arrive, j'éteins.
Ah.
Là, vous êtes là, je vais éteindre. Et vous allez partir tout à l'heure, je vais rallumer. Ah. C'est une présence que... Je ne suis pas seul avec ça. C'est une présence. Vous voulez que je vous montre d'abord le logement?
D'accord, d'accord. J'ai posé ça là, moi.
Oui, s'il vous plaît, excusez-moi, vraiment.
Mais alors, ce bazar, qu'il y a des papiers partout. Les emballages de Monoprix.
C'est en jachère, tout est en jachère.
Ah, en jachère, voilà, c'est l'idée de la jachère.
Je ne veux pas avancer, je veux rester, je veux m'installer dans ma mémoire. C'est ça le témoignage là que je porte. Vous voyez, il y a des affaires à mes enfants. Quand ils ont quitté la région, bon, ils m'ont déposé des affaires, vous voyez. Ça, c'est, si vous voulez, c'est presque plus un lieu de rencontre, parce qu'ils sont là-haut sur Paris, il n'y a que le téléphone qui encore est un lien, vous voyez.
Et vos enfants viennent vous voir de temps en temps?
Quand ils viennent en vacances, quand ils viennent ici, la maman a une maison en Ariège, alors là-bas, ils se rassemblent. Mais moi, je ne fais plus partie de tout ça. Je suis excommunié.
Vous vous êtes exclu ou vous avez été exclu?
Il y a des deux. Il y a des deux. J'aurais peut-être dû faire un effort. Mais on dit toujours l'autre aussi doit faire un effort. Et puis, résultat, ben... Mais enfin, on n'a pas accepté mon témoignage sur l'homosexualité. Il n'a pas été accepté dans la famille.
Pas du tout, par les enfants non plus.
Non, non, non. Non, non, parce que, à tort ou à raison, ils me reprochent de l'avoir caché à leur mère. N'est-ce pas ? J'ai commencé à parler après 28 ans de mariage. Et là, c'était l'étonnement général. Autant pour mon épouse que pour les gosses, que pour la famille. Il n'y avait que les Alsaciens qui le savaient, mes frères et belles-sœurs. Et il semble qu'ils ont conservé le secret. Le secret n'a pas été conservé.
Ah oui.
Il fallait pas qu'on sache que Pierre, moi je suis Pierre, que Pierre était un déporté homosexuel. Je suis né, je vais vous dire la date, 16 août 23 à Haguenau, dans le Bas-Rhin. Mes parents étaient aisés, mais toujours avec des difficultés. C'est-à-dire, j'étais le septième enfant, hein, septième garçon. Ils ont adopté une petite fille après moi. Un milieu très catholique, très pratiquant, très très catho.
Quel enfant vous étiez ?
Du fait que j'étais le plus petit, mes frères disaient toujours « tu es l'enfant gâté ». Enfin, ils le disent encore maintenant, que eux recevaient des fessées, et moi je pouvais me libérer de ça, peut-être parce que j'étais le plus petit, peut-être parce que également les parents vieillis entre-temps. Maman était quand même assez âgée quand elle m'a eu, je crois qu'elle avait presque 40 ans. Disons que c'est un bon souvenir. Jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne savais pas ce que c'était la fin, par exemple, ou des problèmes de famille. J'ai jamais entendu disputer mes parents, par exemple. Vous voyez, tout semblait baigné. À l'époque, quand même, je crois que les parents... Ça doit encore être vrai maintenant, les parents cachent beaucoup de choses aux enfants.
C'est la règle, oui.
C'est la règle. J'ai premièrement été très élevé, très français, c'est-à-dire en Alsace, vous avez quand même, encore maintenant, paraît-il, une partie qui est plutôt à tendance autonomiste. Il y a une partie qui ne déteste pas les Allemands, hein, c'est leur choix. Moi, j'adorais la France. Pour moi, tout ce qui était français, l'armée française, c'était pour moi c'était quelque chose. En plus, à l'école, j'étais assez bon élève quand même, et un souvenir que je n'ai jamais oublié, j'avais en face de moi un garçon qui était d'origine allemande, donc son père était allemand, n'était pas alsacien. Il travaillait dans une bijouterie et nous avions entre nous une querelle, celui qui faisait les plus belles rédactions françaises. Et j'étais malade à un tel point, jusqu'aux larmes, quand c'est lui qui avait une meilleure note que moi. Lui, l'allemand, n'est-ce pas ? Moi, l'alsacien, lui, l'allemand. Vous voyez, c'est un souvenir. Je crois que beaucoup de jeunes de ma génération ont passé par là. J'étais en admiration devant l'uniforme. Je trouvais qu'un homme en uniforme, il faut le dire, pour moi c'était beau et ça provoquait en moi, très jeune donc, un désir que je ne pouvais pas exprimer parce que il y avait d'une part la famille, la religion, le péché, la confession hebdomadaire, n'est-ce pas ? Je ne critique rien du tout, c'était comme ça. Il paraît que c'est encore comme ça maintenant. Pour communier, il fallait passer à la confession et en plus l'école des frères, c'était la prière le matin à l'arrivée. Etc. J'étais donc enveloppé dans cette sécurisation qui, si vous voulez, m'empêchait de vivre une fois de plus, en fait, dès le début, mon homosexualité. Ça, c'est grave.
Alors, vous regardiez passer les beaux militaires?
Les soldats, enfin, tout ce qui était les sportifs aussi, une attirance.
Mais ça, tout gamin, tout enfant?
Oui, je ne sais plus quel âge que j'avais à l'époque. 12 ans, 13 ans, peut-être. Quand même protégé par cet environnement de la famille, de la religion, protégé. Je l'ai dit quelque part, que si dès le début on m'avait préparé en disant il y a sur Terre l'homme et la femme, il y a plusieurs possibilités de s'aimer, certainement que ce que je vais vous dire tout à l'heure ne serait pas arrivé. Un jour, en sortant de l'école, il y avait un lieu de rencontre. C'était des WC publics, les toilettes qui étaient souterraines, près d'un square, près le square Steinbach à Mulhouse. Et là, on était plusieurs garçons à descendre et puis à se rencontrer. Voilà. Et moi, je suivais le mouvement. Je pense que je n'ai jamais été un meneur, mais enfin, ça assouvissait, si vous voulez, mon besoin de curiosité et peut-être ma recherche d'amour. Hein, c'est le mot, il faut le dire. Et il est arrivé un événement dans ce sous-sol. Un de mes voisins m'a arraché ma montre, bracelet, à laquelle je tenais beaucoup. Je venais de faire ma communion solennelle en Alsace, c'est un grand événement. Et c'était un cadeau d'une sœur à ma mère, qui était donc ma marraine et qui habitait à Paris. Alors pour moi, en plus, cette marraine, c'était Paris. La montre, c'était Paris. Vous voyez, c'est terrible de vous exprimer ça. Il me l'a arraché, j'ai hurlé, au voleur, au secours. Les autres, tout le monde est parti, ils sont évaporés dans la nature. Et je me suis retrouvé à grimper les escaliers, mais le voleur était disparu. C'était pas un garçon de l'école. Hein. Et alors j'étais là dans ma misère. Et puis, il fallait vraiment être innocent. Je suis allé au commissariat de police. Et je suis arrivé là, tout tremblotant. Et je dis au policier de service, là, d'accueil, voilà, on vient de me voler ma montre. On va faire une déposition. Et puis, un inspecteur a pris, que je connaissais, de vue, et puis lui me connaissait, le fils de la pâtisserie, une des plus grandes pâtisseries confiseries de Mulhouse. Mais qu'est-ce que tu as fait dans les WC? Qu'il me dit. Qu'est-ce que tu as fait? Si papa savait ça. Textuellement, ça m'est resté. Je suppose que j'ai dû rougir derrière les oreilles, terrible. Et puis là, j'ai dit, bon, voilà, c'est un lieu de rencontre. Ah, il dit, bon, tu nous promets, tu vas bien travailler, tu ne descends plus, tu nous promets de ne plus aller là-dedans, c'est dangereux, c'est sale, etc. Et puis, on ne dira rien à papa ni à maman. Bon, merci beaucoup, je suis sorti, libre. Et ça, c'était donc dans l'année qui a précédé l'arrivée des nazis à Mulhouse, hein. Alors, j'ai continué mon travail, j'ai eu le certificat d'études, j'ai essayé de ne plus penser à ça. Oui, si vous voulez, j'ai enterré ma nature. Hein. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Les Allemands sont venus en juin 40. Je me souviens parce que nous sommes allés sur le trottoir, bien sûr, on était curieux quand même. Aux fenêtres, il y avait des matelas, mes parents avaient mis des matelas devant les fenêtres, à tous les étages. Je sais que papa pleurait. Nous avions un voisin qui s'appelait Müller, qui lui était content, il avait l'air content. Moi j'étais triste, ma mère était triste. Et nous étions surtout foudroyés par la force du matériel qui passait. J'ai arrêté d'aller à l'école, j'avais mon certificat, et qu'il fallait chercher du travail. Alors, il n'y avait que l'embarras du choix. Mes parents connaissaient le gérant des chaussures André, ça je le vois très bien, qui était rue du Sauvage. Ils connaissaient également le magasin de textile qui était à côté, qui était, lui, un magasin sous gestion allemande. C'était un magasin juif, mais géré, donc, sous l'occupation, par des Allemands qu'on faisait venir de l'Allemagne. Et le magasin, au lieu de s'appeler Schwab, à ce moment-là, s'appelait NEK. C'est pas, ils m'ont donné un nom allemand. Moi, j'ai donc fait mes premières armes de vendeur, là-dedans. Je me souviens, ma première vente, c'était un soutien-gorge, d'ailleurs. Oui, non, c'est pas désagréable. J'aimais les froufrous, j'aimais la lingerie, et puis je ne voulais pas aller dans la chaussure, parce que pour moi, la chaussure, c'était désagréable. Il fallait se mettre à genoux devant le client, etc. Ah ouais. Et vous voyez, un peu d'orgueil quand même. J'ai donc été, disons, je crois, un employé modèle. J'avais les clés du magasin en plus, donc une responsabilité, très jeune, apprenti vendeur tout de suite, parce confiance. Que papa-maman étaient monsieur et madame Selle à Mulhouse. Vous voyez, c'est toujours quand même l'héritage de la famille, l'héritage qui n'est pas toujours facile à assumer. Hein. Et puis, j'ai donc fait mon travail. Le soir, il y avait le couvre-feu, mettait partout du bleu aux fenêtres, enfin, à cause des bombardements, à cause des passages des avions. Et la nuit était propice aux rencontres. Hein? Et oui, il faut bien que je remis cette merde. Hein? C'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, j'avais quand même pas mal de copains, on peut dire copains, camarades, qui avaient des activités diverses. Nous avions, tout était motif de liberté. On allait au cours du soir, par exemple. Je n'avais pas de bicyclette. J'allais au cours en tramway, mais au retour, il n'y avait plus de tramway. Donc, à pied. Donc, encore possibilité de rencontre. Etc. Mais aussi des rencontres dans le cadre, là je suis un peu gêné d'en parler parce que je n'ai pas fait partie d'un réseau de résistance, c'était plutôt un réseau d'amis, de camarades homosexuels. Nous distribuions des tracts, par exemple, anti-nazis. On arrachait des affiches, on en collait d'autres. Il y avait des meneurs dans le groupe qui nous donnaient un pli sans rien dire et disaient va le porter à monsieur Untel ou à madame Untel. C'était pour nous en même temps le prix de la liberté. Je suppose que notre amitié, que nos besoins d'amitié favorisaient notre regroupement. Un soir, en rentrant du magasin, donc, qui était absolument voisin avec le magasin de mes parents. Il y avait juste une maison entre les deux. Hein. Et je rentre, toujours, je pense que j'étais affectueux, je pense même que je suis un tendre. J'allais embrasser maman, qui était derrière sa caisse. Vous savez, avant les pâtisseries, j'étais un trône pour le magasin, bien avec le téléphone, tout ça. Puis maman était toujours bien habillée, ça. Malgré l'occupation, hein, elle était coquette. Et elle avait 10 ans de plus que papa. Au passage, je veux le dire, ça a peut-être une influence dans l'amour que je portais pour ma mère. Et puis, je rentre pour l'embrasser. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu es convoqué à la Gestapo demain. Là, comme ça. Au mois de mai 41. Ah. J'étais loin de penser, je reviens au commissariat de police français, j'étais loin de penser à tout ça. Je me dis, bon, ben, dénonciation peut-être parce que, vous savez, je vous ai parlé de ce camarade d'école qui était très fort en rédaction française. Lui, tout au début, il est venu me voir avec l'uniforme de la jeunesse hitlérienne, en uniforme. Donc, il s'était bien préparé. Elle me dit, Pierre, tu viens avec nous, on va s'amuser, ça va être chouette, etc. Je lui dis, non, moi, je veux rien de ça. Il portait l'uniforme avec le brassard, avec la croix garnée. Je lui dis, ça, c'est pas possible. Et puis bon, je pensais à lui tout de suite. J'avais comme une intuition, j'ai dit, ce garçon m'a dénoncé, etc. Il faut que je donne des explications. On va peut-être me forcer à le porter finalement, cet uniforme. C'était ma première... J'étais loin, loin, loin de penser à l'homosexualité. Alors vraiment loin. Hein.
La destruction de l'État commence au moment où intervient un principe érotique. Et je le dis avec le plus grand sérieux, l'attrait sexuel de l'homme pour l'homme nuit à la bonne marche des affaires. Himmler.
Je revois l'endroit, je revois tout. Il paraît que ça a été transformé depuis. Et puis, les cris ont commencé tout de suite. Les cris.
Quels cris ? Pourquoi les cris ?
Des hurlements. Les Allemands ne peuvent pas parler. Ils hurlent. Ils hurlent. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à hurler quand je suis en colère. Parce qu'il y a peut-être, en tant qu'Alsacien, il y a peut-être aussi un peu de germanisme là-dedans. Vous voyez, il y a les deux cultures qui se sont cognées là-bas. Hurler, des hurlements, mais aussi des cris. Et là, c'était les victimes. Là, c'était... les personnes qui ont été arrêtées en même temps que moi, qui ont été convoquées en même temps que moi, sur lesquelles on travaillait déjà, travaillait entre guillemets. Alors,
je veux dire qu'on les torturait.
Absolument, il n'y a pas d'autre terme. Alors en traversant, on m'a donc installé également à une table. C'est allé très vite. On m'a montré un papier qui était donc ce fameux rapport. Là, on revient donc à la catastrophe. Qui est arrivé avant l'arrivée des nazis. Et si je reconnaissais, qu'est-ce que vous voulez, il y avait ma signature en bas, c'était marqué en français, etc. Lieu de rencontre, Schwarzsteinbach. Et je n'aime pas parler des coups reçus, que nous recevions. De toute façon, j'ai reconnu aussitôt les autres garçons. Par la suite, nous avons su que nous étions 12 à être convoqués cet après-midi-là. 12 homosexuels. 12. Et alors, les tortures, c'était les uns étaient à genoux sur une règle, les tortures simples et les tortures compliquées. Ensuite, les gifles, toujours avec la lumière, je revois les phares là dans les yeux. Et alors ils ont commencé par un, ils ont fait descendre le pantalon pour voir s'ils n'avaient rien caché. Soi-disant on peut cacher des papiers ou des affaires dans l'anus, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et là ça a commencé, ils sont devenus comme fous, comme déchaînés. Et au point que dans une salle ils ont battu les uns avec les autres. Le plus fort des nazis prenait un garçon. Hein, et tapait l'autre avec, vous voyez. C'était vraiment la haine de l'homosexuel. La haine sur nous parce qu'on était homosexuel. Ça, j'en ai déduit tout de suite.
Mais est-ce qu'ils savaient que vous aviez distribué des tracts et des choses comme ça?
Non, justement, ça n'a jamais ressorti. Ça n'est jamais ressorti. Moi, j'aurais préféré que ce soit ressorti, qu'on nous dise, voilà, vous avez enlevé des affiches, vous avez distribué des affiches, etc. J'aurais peut-être, au moment de la libération, en 45, quand je suis revenu, j'aurais peut-être été fier et j'aurais parlé de ma résistance, que j'ai fait moi aussi de la résistance. Non, on nous a diminué plus que bas, sous terre, n'est-ce pas, avec l'homosexualité.
C'est au cours de cette séance de torture que vous avez été violé par les nazis.
Oui, alors ça c'est une anecdote que jusqu'à présent je n'ai jamais insisté là-dessus, parce que je me suis toujours réservé le droit de protéger ce souvenir. Je ne commence à parler que depuis un an, deux ans de ce viol, hein, parce que c'est trop dur, c'est trop... pour moi, c'est lié aussi toujours à cette notion de honte, d'abaissement, n'est-ce pas? Maintenant, si je revois la scène, et si je devrais la décrire en toute réalité... Le viol en lui-même n'était peut-être pas la chose la plus terrible. C'était le sang qu'il y avait partout. n'est-ce pas, sur les papiers, sur les tables, il y avait du sang partout, comme dans une boucherie. Et toujours les cris, les hurlements des nazis, et nos propres cris à nous aussi, des cris de douleur, de souffrance, n'est-ce pas? Hein? Parce que vous avez des gens qui savent souffrir dans le silence, qui mettent la main dans la bouche pour se taire, pour accepter la souffrance. Et il y en a d'autres, moi j'ai hurlé comme quelqu'un qu'on égorge. Enfin, le malheur, c'est que plus je hurlais, plus je les excitais, plus ils étaient violents, plus ils sortaient leur violence, vous voyez. Et vous ne pourriez rien faire, ils étaient armés, premièrement, ils étaient bottés, et nous, on était à moitié dévêtus, hein, avec du sang partout. Et ça a duré quand même longtemps, cette séance, l'après-midi. Dans les différentes salles, ça bougeait, ça bousculait. D'une salle, on venait vous tirer dans une autre. Et il y avait toujours, ça, je l'ai peut-être passé exprès sous silence, j'avais dans le magasin où je travaillais un petit ami qui était vraiment, tous les deux, nous étions très heureux de nous aimer, Jo et moi. C'est important que je le dise parce qu'il a été convoqué en même temps que moi, Jo. Et là-dessus, donc, on nous a montré un autre papier où il y avait le nom que nous avons tout de suite reconnu d'un prêtre, un aumônier du lycée de Mulhouse, un prêtre jésuite, il est maintenant décédé. La Gestapo nous a demandé, vous l'avez connu, comment l'avez-vous connu, etc. Et là, nous avons été très forts, nous avons réussi à ne rien dire. Jo et moi, jusqu'au bout, nous avons protégé ce prêtre. Il n'a pas été arrêté. Il aurait suffi que qu'on cède, nous deux, à notre souffrance, et qu'on signe, par exemple, ou qu'on fasse une allusion quelconque, et cet homme aurait été arrêté. Le soir même, mon père et mon frère, qui devaient donc se marier dans la quinzaine, se sont présentés à la Gestapo. Et on demandait, après moi, et on demandait, qu'est-ce que devenait Peter, moi je suis en Alsacien, ça veut dire Peter, c'est, ah, votre fils, c'est un Schweinehund, c'est un Schwein, c'est cochon, et Hund, c'est chien, n'est-ce pas? Et Arschficker, ça veut dire enculé, voilà, Arsch, c'est cul, c'est l'anus, et Ficker, c'est le baiser, quoi, c'est le... Et alors là, mon père est presque tombé, il paraît qu'il est tombé évanoui, presque évanoui, ma maman est tombée évanouie quand elle l'a appris. C'est comme ça que mes parents ont appris que j'étais homosexuel. Le soir même, donc, nous nous sommes retrouvés dans des cellules à la prison, aux prisons de Mulhouse. Et là, j'ai découvert la cruauté de l'être humain. J'étais donc le plus menu, le plus maigre, le plus jeune. La cellule était encombrée d'une montagne d'hommes, d'êtres humains. Les uns plus mal lotis que les autres. Et moi, on m'a mis... Le mur suintait, ça, je le garderai toujours dans ma mémoire. Le mur suintait, nous étions donc tous des Français, hein, tous des victimes des nazis. Moi, on m'a mis dans l'eau, moi le plus jeune. Aucun ne voulait se mettre de côté du mur, la flaque d'eau, et j'ai resté là la nuit entière, croupi dans cette eau. Ça m'a fait réfléchir sur moi qui étais un être d'amour, qui le suis encore, qui crie, je ne voudrais que hurler l'amour, d'avoir fait ce jour-là, en une seule journée, le contact avec l'horreur, avec le viol, avec la souffrance, et en plus, l'attitude des compatriotes, n'est-ce pas, qui étaient peut-être, il y a quelques jours avant, avec moi, chercher le plaisir, peut-être. Vous voyez, tout ça, je l'ai découvert en une seule après-midi. Et Nous avons été transférés au camp de Voorbrug, qui est dans le Bas-Rhin. C'était un camp qui, en 1941, commençait à se remplir. Il y avait des communistes, il y avait des tziganes, il y avait des juifs, il y avait des homosexuels, comme nous autres. Il y avait beaucoup de femmes, quand même. Il y avait des prostituées, des droits communs aussi. Ça, c'était terrible, le contact dans ce camp. Moi, un souvenir qui me reste, on passait à la tondeuse. Normalement, on était tous tondus et ensuite à la douche, l'échange des vêtements. Moi, quand même, pendant 2 ou 3 jours, on m'a fait circuler avec la croix gammée sur la tête. J'avais des très beaux cheveux, j'étais un zazou, comme on disait à l'époque. Des cheveux en arrière collés, ça se voit plus maintenant, j'ai plus rien. Mais vous savez, les nazis, ils étaient vraiment très forts, ils inventaient n'importe quoi pour vous diminuer. Alors cette croix gammée, tondue sur ma tête, dans mes cheveux, n'est-ce pas, j'étais la risée des autres. Et en plus, l'insigne qui montrait quand même que j'étais un homosexuel, nous n'avions pas le triangle rose, nous avions un insigne bleu à l'époque. Donc je n'avais pas ni l'étoile, ni l'insigne rouge des politiques, ni l'insigne brun des gitans. On avait un insigne à nous, donc on nous reconnaissait. Alors, il y avait quand même, de la part des compatriotes, de la part des autres, une risée, hein. C'est pour ça, longtemps après, même dans l'armée allemande, je me disais, ça doit se voir sur mon visage. Longtemps dans la rue aussi, il m'est resté une habitude, une des souffrances particulières qu'on nous réservait là-bas dans le camp, c'était, il fallait toujours courir et ramasser des petits bouts de papier. Et les SS s'amusaient à en jeter, dès que vous en ramassiez un, ils en remettaient d'autres. Et alors, on passait des heures entières à ramasser des bouts de papier. C'est peut-être pour ça que maintenant je suis encombré de papier. Rien que pour dire je ne veux plus les ramasser. Je suis libre, moi, maintenant, d'avoir mes papiers. Vous voyez, c'est terrible. Ça, je voudrais que vous exprimiez tout ça. Enfin, en somme, ma façon de vivre maintenant est une, ce n'est plus une interrogation, c'est une révolte constante contre mon passé, de ce que j'ai vécu, de ce que, vous voyez. Alors, pour en revenir au camp, c'est allé très vite dans les premiers jours, en juin 41, donc un an après l'arrivée des nazis, hein, un an après l'arrivée des nazis. Un matin, je ne vois pas Joe, et nous avions tous les matins des appels, ça s'appelait, il fallait aller sur la grande place du camp, où il y avait les potences d'ailleurs aussi, pour les pendaisons. Ça, on ne le dit pas assez, tout ça, nous l'avons vécu. Hein, ils laissaient balader les corps, des fois pendant des journées entières, les corbeaux qui tournaient autour. On était toujours avec cette vision. Hein. Et je ne vois pas Joe, et je le vois arriver, encadré de deux gendarmes, enfin de deux Gestapo, et ils ont lu, donc toujours en allemand, une sentence, une condamnation à mort. Et là, ça je vous parle alors de mon ami. Hein, mon ami, c'était pas mon amant, parce que c'était très pur, c'était magnifique ce que nous avons vécu tous les deux ensemble. Il était là, ils l'ont fait déshabiller, entièrement à poil. Je pèse bien mes mots. Ils lui ont mis un seau en fer blanc sur la tête. Donc on ne voyait que le corps. Et ils ont lâché les chiens du camp sur lui. Et ça, c'est historique, cette déclaration. Je veux qu'on le sache, qu'on le dise encore maintenant, qu'on en répète dans les chaumières, que partout je veux qu'on le sache, qu'ils ont fait ça, les Allemands. Joe, quand il a été dévoré par les chiens, la musique était diffusée pendant ce temps.
Quelle musique vous souvenez?
Allemande, de la grande musique allemande. Oui, oui, oui. En partie, ça couvrait les cris, mais les cris déjà étaient couverts par le son sur la tête, n'est-ce pas, ce son métallique, mais qui par moment amplifiait le bruit. Ça faisait une sonorisation, si vous voulez. Oui, c'est atroce ce que je vous dis là. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une bougie qui brûle chez moi. Hein?
C'est la mémoire de Jo.
C'est lui. Et plus maintenant que j'ai 70 ans, plus je vieillis, plus j'ai besoin de penser et de sentir, je me dis, pourvu que sa dernière pensée était pour moi. Vous voyez, à ce point. Puisque je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Je ne peux pas, ce n'est pas possible.
Voilà, c'était le témoignage de Pierre Selle. En 1993, dans la base où j'y suis, Pierre Selle est décédé en 2005. À la suite de ce reportage de la base où j'y suis, il y a eu un livre l'année suivante, en 1994, et puis une suite d'intérêts et de développement, et lui-même n'a pas cessé de militer et de témoigner jusqu'à sa mort, jusqu'à faire reconnaître la persécution des homosexuels pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis on peut se retrouver aussi sur notre page Facebook. Yann Bouillot et Florent Beauvalet étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Quand je travaillais, mon fond d'écran, c'était une île. J'en changeais souvent, histoire de voyager. Mais depuis que j'ai gagné à Euromillions, je les ai toutes visitées. L'île de Ré, Saint-Barth, La Réunion. Ça m'a pris un an. Mais je suis comme ça, moi. Avant d'acheter, j'aime bien tout voir.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillions le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 54 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Autour de nous, de nombreuses personnes sont touchées par le cancer, par la maladie d'Alzheimer, par de graves problèmes cardiaques. Comment faire pour combattre toutes ces maladies? Moi, j'ai choisi de donner à la Fondation pour la Recherche Médicale. Elle s'investit dans tous les domaines de la recherche. Elle sait où sont les besoins.
Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale agit pour le développement d'une recherche de pointe au service de tous les malades. Parce que toutes les maladies doivent bénéficier de la recherche, faites un don à la Fondation pour la Recherche Médicale sur frm.org.
Dans son livre Parole, Parole, Frédéric Pommier décortique l'éthique de langage de nos politiques.
La baladurite, affection se manifestant par l'usage de l'expression « je vous demande de vous arrêter ». La déesquive, affection se manifestant par l'usage de l'expression « faute morale ». La Jésus-Christite, affection se manifestant par l'usage de l'expression « ne pas stigmatiser ».
Parole, parole, formule de nos politiques, de Frédéric Pommier, une coédition France Inter.
On se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut.
L'ouverture de la conférence internationale des amis du peuple syrien à Tunis a été retardée. Des manifestants, des partisans de Bachar al-Assad ont tenté de pénétrer dans l'hôtel où se tient la réunion. Les représentants de plus de 70 pays arabes et occidentaux, dont les chefs de la diplomatie américaine Hillary Clinton, doivent prendre part à cette conférence co-présidée par la Tunisie et le Qatar. Alain Juppé également, le ministre des Affaires étrangères, a appelé solennellement les autorités de Damas à permettre l'évacuation des journalistes coincés à Homs, particulièrement la française Edith Bouvier, blessée, qui doit être évacuée le plus vite possible, l'a dit Alain Juppé. La prochaine réunion des amis de la Syrie se tiendra à Istanbul dans 3 semaines. Des affrontements encore aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Affrontements entre la police israélienne et des centaines de Palestiniens, jets de pierre, grenades lacrymogènes. Cela fait une semaine que la situation est tendue. Les musulmans, qui ont la garde des lieux, veulent empêcher des juifs religieux, souvent issus des milieux extrémistes de droite ou de colons, de venir prier sur le site en se mêlant aux touristes, ce qu'ils considèrent comme une provocation. Le candidat président Nicolas Sarkozy est allé annoncer aux salariés de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne en Seine-Maritime que le contrat avec Shell était signé, un contrat de 6 mois qui va permettre au site de reprendre son activité temporairement. Shell annonce qu'elle va fournir 10 millions d'euros pour les travaux de redémarrage. L'État, lui, devrait en fournir 20. À propos de ce dossier, François Hollande estime que le président de la République part au plus pressé. On voit bien quelle est l'intention du candidat sortant, a commenté le candidat PS, qui était, lui, à Florange, en Moselle, pour dire sa solidarité avec les salariés d'ArcelorMittal. François Hollande s'est engagé à ce que ce site puisse se développer. « Voilà mon message devant vous », a-t-il lancé devant quelques 200 salariés. Il s'est engagé également à déposer, avant la fin de la session parlementaire, une proposition de loi permettant à l'État d'empêcher la fermeture d'une usine rentable, une idée déjà évoquée en janvier sur le site voisin de Gandrange. Claude Guéant dénonce les violences inacceptables sur l'île de la Réunion. 9 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans la nuit en marge des mouvements de protestation contre la vie chère. Selon le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés. Une table ronde sur le sujet se tient en ce moment autour du préfet avec les associations de consommateurs, des compagnies pétrolières et des professionnels de la route. Un couple qui travaillait au service de la femme de Daniel Echter a été mis en examen il y a quelques jours. L'épouse du couturier avait déposé plainte avant son décès il y a un an. Elle s'inquiétait de retraits suspects sur ses comptes bancaires. Son mari a poursuivi la plainte. Le couple, qui travaillait à leur service depuis 12 ans, est soupçonné d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent, au moins 2 millions d'euros, en profitant de la faiblesse de Madame Echter.
Liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec le journal Le Monde. Michel Crépu, Le Souvenir du Monde, essai sur Chateaubriand, édité chez Grasset.
Tout à coup, j'ai redécouvert Chateaubriand. Alors ce qui est drôle, c'est que je suis infiniment plus sensible à la lecture que peut en faire Michel qu'à Chateaubriand lui-même, que je n'arrive pas à lire.
Et Stéphanie Pollack, Comme un frère, chez Stock.
Ce livre, pour moi, est absolument un coup de sonde qui fait retentir une vérité.
Les liaisons heureuses, demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
Il est presque 16h04, l'heure de retrouver Quand la musique donne. Avec vous, Didier Varron, bonjour.
Merci Dominique, bonjour. Je vous présente une partie du groupe Moriarty, Stéphane et Rosemary, et DJ Cam, qui vont se rencontrer pour la première fois sur France Inter. On vous retrouve à 17h.
À 17h.
À tout à l'heure.
Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment ? C'est une vibration.
Didier Varron.
Il est né à Paris. Ils sont nés à Paris, enfin presque tous. Il s'est mis au piano à l'âge de 8 ans. Elle a chanté dans la rue dès l'âge de 8 ans. Il possède son propre label, Inflammable Records. Ils ont créé leur propre label, R Ritmo, anagrammique déclinaison de leur nom de groupe. Il est viscéralement indépendant, eux non plus. Il est l'homme qui a réussi à faire pleurer les machines. Ils ont réussi à nous redonner le goût de la rusticité du blues et du folk d'avant le rock. Il s'est inspiré pour son dernier disque des écrivains français du XVIIIe siècle, de l'Angleterre victorienne, du peintre allemand Caspar David Friedrich, des cabinets de curiosité. Ils ont été inspirés pour leur dernier disque par des histoires d'envoûtement, de rupture et de mort. Il aime aussi bien Public Enemy, Massive Attack qu'Alain Souchon. Ils aiment autant Dylan que The Cure ou Joy Division. Il aime les esprits du vaudou et le pays des merveilles de sa Juliette. Ils savent que Rosemary aime le sexe, le thé, les lentilles, le citron, manger des huîtres dans le sable et le rire. Il a joué en première partie de Jean-Michel Jarre devant 700 000 personnes. Ils ont enregistré en Inde des versions Bollywood de leurs chansons. Il vit dans une Amérique qu'il a beaucoup fantasmée. Il chante une Amérique fantasmée. Il est compositeur, DJ et producteur. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes. Il s'appelle DJ Cam. Il s'appelle Moriarty. Deux noms pour deux initiales. CM, non, ce n'est pas le symbole de l'élément chimique curium, selon la liste des éléments chimiques, ni le code Cameroun, selon la norme ISO 31661 sur la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code Alpha 2. Non, c'est DJ Cam, Moriarty, nos deux invités cet après-midi sur France Inter, notre drôle d'endroit pour une rencontre. Bonjour Rosemary.
Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Pour le groupe Moriarty. Ça va bien ?
Ça va bien.
Bonjour DJ Cam.
Bonjour Didier.